www.radioscoop.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Déjà présent dans les récits de science-fiction depuis le XXe siècle, l'intelligence artificielle a explosé pour se retrouver dans toutes les conversations, débats et usages du quotidien. Une sorte d'outil magique qui, depuis 2020, est devenu accessible, manipulable et testable par toutes et tous via des conversations, des traductions instantanées ou encore la génération d'images à l'infini. Soudain omniprésente, l'IA est partout mais ne veut plus vraiment dire grand-chose. Alors comment ça marche et est-ce vraiment magique ? Explication avec le Labo des Savoirs. Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et leur cycle de conférences « Science étonnante ». C'est une fois par mois et c'est gratuit. Et pour cette émission, nous échangerons avec Serge Abitboul, informaticien, directeur de recherche à l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, l'INRIA, chercheur également à l'ENS et membre de l'Académie des Sciences. Nous avons pu échanger en préambule de sa conférence qu'il a donnée au Muséum d'Histoire Naturelle, appelée « Intelligence artificielle, puisqu'on vous dit qu'il n'y a rien de magique ». Mais dans cette émission, nous entendrons également Fabien, chroniqueur au Labo des Savoirs, qui s'interroge pour savoir si les IA peuvent devenir nos nouveaux thérapeutes. Vous êtes bien, vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs.
Le son des sciences au Labo des Savoirs.
Serge Abitboul, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Vous êtes informaticien, directeur de recherche à l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, autrement appelé INRIA, ce qui est plus court quand même. On va parler d'IA dans cette émission, mais avant même de s'incruster dans tous les titres d'actualité scientifique, l'IA c'était déjà au centre de la pop culture, de la science-fiction. Je vais citer que deux superstars que tout le monde connaît, HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est sorti en 68, qui est plutôt du type méchant, méchant IA, et R2-D2, robot intelligent, qui fait d'ailleurs des conversations mais qu'à base de bip boop boop, alors qu'aujourd'hui on a des choses plus évoluées. Et donc R2-D2 de Star Wars, sorti en 77, qui lui est plutôt gentil. Une fascination pour des intelligences robotiques qui nous font oublier qu'en fait l'IA à la base c'est de l'informatique. Ça tombe bien, vous êtes informaticien, l'informatique vous savez ce que ça veut dire, et dans votre conférence vous commencez par parler un petit peu de l'histoire de l'informatique mais aussi de fourmis. Quel est le rapport entre l'informatique, les fourmis et je crois qu'il y a une histoire d'algorithme derrière?
Alors, le lien est quand même assez étroit. Quand vous regardez une fourmilière, par exemple, que les fourmis ramènent de la nourriture à la fourmilière, d'accord, au bout d'un certain temps, vous apercevez qu'elles ont elles suivent un algorithme. Elles ne font pas au hasard. Alors, au départ, ça semble être un peu la panique, c'est un peu le bordel, elles partent dans tous les sens. Et petit à petit, elles finissent par trouver le plus court chemin et puis amener un chemin qui les amène, qui amène la nourriture à la fourmilière. Et ça, ce qu'elles font, c'est un algorithme, d'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'elles ont une manière, une méthode, une technique, vous appelez ça comme vous voulez, un algorithme pour amener de la nourriture à la fourmilière. Est-ce qu'elles en ont conscience ? Pas du tout. C'est-à-dire que vous demanderez à une fourmi, si vous arriviez à parler fourmi, elle ne vous expliquerait pas l'algorithme qu'elles sont en train d'utiliser. En fait, c'est basé sur des choses très, 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 très simples. C'est que le long du chemin, elle dégage des phéromones. Et puis, plus le chemin est court, plus il y en aura et plus elles vont aller choisir ce chemin-là. Donc, ça marche bien, mais elles n'ont pas du tout aucune façon de vous expliquer quels algorithmes elles suivent. Ben, les nouvelles techniques d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est un petit peu ça. C'est pour résoudre des problèmes dont on ne sait pas vraiment décrire une solution de façon algorithmique. D'accord ? Bon, reconnaître un visage, on ne sait pas très bien comment on fait. Comment je reconnais votre visage ? Je vais le reconnaître au bout de quelques fois, mais je ne suis pas du tout capable de vous expliquer est-ce que je regarde d'abord les yeux, est-ce que je regarde d'abord les oreilles, qu'est-ce que je repère chez vous ? Eh bien, c'est pareil pour tous ces problèmes-là. On a développé des algorithmes et on sait d'une certaine façon les résoudre, un peu comme la fourmi, sans être capable de décrire exactement ce qu'on fait, en utilisant un algorithme qui est très particulier, qui est les algorithmes d'apprentissage.
On va parler de ces algorithmes d'apprentissage, mais là, du coup, quand on parle des algorithmes, on parle un petit peu d'un langage avec la machine, avec l'informatique ?
Oui, c'est complètement de l'informatique. C'est-à-dire que les algorithmes, c'est quelque chose qu'on développe, que les humains développent depuis le début de l'humanité. Mais maintenant, ce qu'on a su faire, c'est demander à des machines de les faire pour nous. C'est-à-dire qu'on est capable de traduire ces algorithmes en programmes informatiques et de demander à des machines, des ordinateurs, de les réaliser pour nous, de faire le boulot pour nous. D'accord ? Donc ça, c'est la grande transformation du XXe siècle, c'est d'être capable de demander à des machines de faire notre taf. D'accord ? Donc ça, c'est des algorithmes qu'on sait exprimer. Ces algorithmes d'apprentissage automatique, c'est des choses qui vont être un petit peu différentes. C'est aussi des ordinateurs qui vont calculer, et c'est encore toujours la même idée, qu'on va faire notre travail à des machines. Mais comme on ne sait pas décrire pas à pas quel travail on veut leur faire faire, on va leur dire, ben là, je sais pas comment on reconnaît un visage, hein, je sais pas faire ça. Par contre, ce que je sais faire, c'est je peux vous donner plein d'exemples et vous donner un petit peu des notions de voir quelle est la distance, comment vous vous placez plus loin ou plus proche d'une autre image. Et à partir de là, ben vous allez, quand on va vous donner un visage, vous allez essayer de regarder dans une base de données. Quel visage ressemble le plus à celui-là ? C'est pas exactement la même photo, mais quand même, il y a des ressemblances. Donc là, l'algorithme sur lequel on va travailler, c'est l'algorithme pour essayer de décrire des ressemblances entre visages.
Faire des comparaisons, finalement, entre deux photos.
Exactement.
Là, on parle pas de l'algorithme avec un grand L, comme on peut entendre parler de temps en temps, l'algorithme qui décide ce que je regarde sur YouTube, l'algorithme qui décide mon fil Instagram.
Là, on est dans la fantaisie la plus totale. Il n'y a pas un algorithme. Pour un problème particulier, il peut y avoir des tas de façons de résoudre ce problème. Donc, il peut y avoir des tas d'algorithmes. Et puis, en plus, il y a plein de problèmes. D'accord? Le problème de reconnaître votre visage, c'est pas du tout le même problème que de choisir le plus court chemin dans un graphe. D'accord? Donc, il y a plein de problèmes. Pour chacun de ces problèmes, il y a plein d'algorithmes. Donc, on dispose d'un nombre considérable d'algorithmes, donc de logiciels. C'est-à-dire des algorithmes qui ont été codés pour demander à des machines de le faire. Mais quand j'entends parler de l'algorithme, ça fait toujours un peu rigoler, comme s'il n'y a pas un algorithme, heureusement.
Il faut arrêter d'en parler au singulier, a priori, il y en a plein. Donc vous parliez de ce fameux algorithme qui apprend peut-être les ressemblances entre différents visages, ou un autre exemple que vous donnez notamment dans votre conférence, c'est à reconnaître est-ce qu'il s'agit d'un chien, est-ce qu'il s'agit d'un chat. C'est un algorithme, c'est une intelligence artificielle, c'est quoi la différence entre les deux ?
Alors, c'est intelligence artificielle, d'un point de vue scientifique, ça aucun sens, d'accord? Donc on va oublier, même si je parle de ça dans ma conférence, c'est pas vraiment un sujet, c'est plutôt un sujet très, très clair de science-fiction, c'est un sujet très clair de folklore, c'est pas un sujet scientifique précis. Donc il y a des algorithmes qui nous permettent de calculer un petit peu qu'est-ce qui est le plus proche, et donc il y a des algorithmes qui ont été développés, des algorithmes qu'on dit par exemple à base de réseaux de neurones, qui vont être des algorithmes d'apprentissage. C'est-à-dire, c'est des algorithmes qui, au lieu de suivre pas à pas une trace qu'on leur donne, d'une spécification qu'on leur donne, vont essayer de s'adapter à tout un paquet d'exemples qu'on va leur donner. D'accord? Donc, on va leur dire, voilà plein d'exemples et vous essayez de fonctionner comme ça. D'accord? Donc, je sais pas vous dire exactement ce qu'il faut faire. Je sais pas vous dire comment on parle français. Prenons un autre exemple, parce que c'est une des plus grandes applications, pour le langage. Je ne sais pas vous expliquer comment je parle français. Je ne sais pas vous expliquer comment je comprends le français. Je sais pas. Je sais pas vous dire ça. Par contre, ce que je peux vous donner, c'est je peux vous donner des tas de textes en français, parce que ça, je dispose de téraoctets de données qui sont des textes en français. Et je peux vous dire, voilà, parler français, c'est faire comme ça. Alors là, à partir de statistiques, vous allez essayer de faire comme ça. À la limite, sans comprendre vraiment ce que vous faites. Mais vous allez essayer de parler français. Et c'est assez bluffant, parce qu'on arrive à avoir des algorithmes d'intelligence d'IA générative qui vous donnent l'impression de parler assez bien le français ou de parler assez bien l'anglais, par exemple, mais pourtant sans rien comprendre, uniquement à partir de en faisant pareil que les gens qui parlent français. C'est un petit peu, si vous voulez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui irait au café d'à côté, qui entendrait les gens parler et qui se mettrait à répéter un peu ce qu'il entend parler, un peu comme un perroquet. mais un perroquet qui aurait, au lieu d'écouter les plusieurs heures de conversation qu'il y a dans le troquet du coin, qui écouterait des milliards d'heures de conversation.
Donc un algorithme d'apprentissage, c'est un algorithme à qui on a donné à manger énormément de données pour qu'il arrive à comprendre comment faire cette tâche, et à la fin il fait un truc qui ressemble,
exactement.
Mais il sait pas forcément lui-même comment il fait.
Voilà, exactement.
C'est un peu une boîte noire en fait.
Alors, c'est une boîte noire dans le sens où on n'est pas capable d'expliquer ce qu'il fait, mais par contre, on peut vous dire exactement quel est le logiciel qui a été écrit par des humains et quelles sont les données qu'on lui a données à manger. Dans les cas des réseaux neuronaux, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre au point des milliards de paramètres, de petits paramètres, et c'est ces milliards de petits paramètres qu'il va mettre au point à partir de tout ce qu'on lui a donné à manger. D'accord. Alors, à partir de là, vous n'allez pas comprendre comment il fait, parce que vous ne connaissez pas les milliards de petits paramètres. Ils viennent de toutes ces données. D'une certaine façon, c'est un peu comme vous fonctionnez. Vous parlez français. Pourquoi ? Parce que vous avez entendu, depuis que vous êtes gamine, des gens parler français, vous avez appris. Mais si je vous demande, quand vous donnez une phrase, quand vous me dites une phrase, quand vous me posez votre dernière question, vous êtes absolument incapable de me dire pourquoi vous pensez que cette dernière question était vraiment du français.
Quand vous parlez de réseau de neurones, pour clarifier, on ne parle pas de vrais neurones, c'est vraiment donc une façon de parler pour ces petites caractéristiques créées par l'algorithme. C'est des neurones électroniques, je ne sais pas comment dire, informatiques.
Absolument. D'ailleurs, excusez-moi, je devrais préciser, on ne le fait pas. Quand on parle de réseau de neurones, on parle de réseau de neurones numériques, ce qui n'a rien à voir avec le réseau de neurones que vous avez dans la tête. Alors, l'analogie, c'est que votre façon de fonctionner dans le cerveau, c'est que vous avez plein de neurones, plein de connexions entre ces neurones, et c'est ça qui crée votre cerveau. Bien, un réseau de neurones, ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire qu'il y a des milliards de petits processeurs, des liens entre ces processeurs, d'accord ? C'est des processeurs vraiment très élémentaires, comme d'une certaine façon, un neurone humain, c'est quand même quelque chose d'assez élémentaire, et c'est ça qui fabrique votre machine à calculer votre intelligence artificielle.
L'intelligence, ça vient de plein de petites choses très élémentaires qui, ensemble, quand ça fonctionne, ça fait des étincelles.
Absolument.
Là, on a parlé de réseaux de neurones et un petit peu d'apprentissage. Il y a un autre type que je ne connaissais pas, dont vous parlez dans votre conférence, une famille alors d'IA, pour reprendre le terme de tout à l'heure, même si on l'a vu scientifiquement, l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est les IA symboliques. C'est quoi ?
Alors là, c'est passionnant parce que moi, ça fait partie de ma recherche pendant toute ma carrière. Alors, peut-être qu'on va faire un pas de côté. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? On ne sait pas. Alors, on la caractérise, on essaie de lui donner plein de définitions. Mais en gros, on va dire que quelque chose est de l'intelligence artificielle si c'est quelque chose que les humains savent faire et que les ordinateurs ne savent pas faire. Mais à partir du moment où vous êtes arrivé à écrire un logiciel qui le fait, d'une certaine façon, si vous allez au bout de votre pensée, c'est plus de l'intelligence artificielle, puisque les machines, les humains savent les faire, mais les machines aussi. Donc, ça distingue pas vraiment des machines, les humains des machines. Donc, l'intelligence artificielle, en gros, c'est quand même quelque chose qui nous distinguerait, et je mets plein de guillemets partout, des machines. Et donc, il y a quelque chose qui, au début, pour moi, était de l'intelligence artificielle, mais qui est devenu maintenant standard pour les machines, par exemple, de calculer. D'accord, des machines qui calculent, une machine qui est capable de faire des multiplications, de faire racines, de calculer des racines carrées, de résoudre des équations, de faire des trucs que la plupart des humains ne savent même pas faire parce que c'est des maths assez poussées. Ça, c'est de l'intelligence. Non, on n'appelle plus ça de l'intelligence artificielle. Alors moi, je vais appeler ça de l'intelligence artificielle symbolique. C'est-à-dire de l'intelligence artificielle qui est basée sur la manipulation de symboles. Alors donc là-dedans, on va trouver tout un paquet de choses sur les logiques, tout un paquet de choses sur la résolution de systèmes d'équations, la résolution de formules de logique aussi. Et là, on a fait des progrès considérables sur 50 ans. Et ces trucs-là, on les utilise de façon courante pour résoudre des systèmes, pour résoudre des problèmes, pour faire de la planification, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appellera l'IA symbolique. C'est d'une certaine façon tout un paquet de problèmes que des humains savent résoudre et que maintenant les machines résolvent très bien. Attention, très souvent, quand un journaliste aujourd'hui, et je ne pointe pas particulièrement vers cette profession, mais très souvent, quand le grand public ou les gens parlent d'intelligence artificielle aujourd'hui, ils ne parlent pas du tout de cette intelligence artificielle symbolique, ils parlent de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle qui est plus, on va dire, on l'appelle des fois connexionniste ou statistique. Pour une raison très simple, c'est que les problèmes que ça résout sont des problèmes qui ont bloqué les informaticiens pendant tout le XXe siècle. Pendant tout le XXe siècle, on n'arrivait pas très bien à reconnaître des images. Ça a progressé très très lentement. Et on a appris à le faire. Pendant tout le XXe siècle, moi j'entendais déjà parler depuis très longtemps on va faire de la traduction automatique. Ouais, mais ça a mis longtemps pour y arriver, c'était pas facile. Donc c'est tout un paquet de problèmes que l'informatique n'arrivait pas à résoudre et qu'on est arrivé à résoudre relativement récemment avec des techniques de style réseaux neuronaux et d'intelligence artificielle statistique ou du machine learning. Pour y arriver, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps et ça a pris un facteur, en gros, une combinaison de trois facteurs. La première, c'est d'avoir des machines beaucoup, beaucoup plus puissantes. Deuxième facteur, c'est des données considérables et de quoi faire apprendre. Pour apprendre, ben, il faut avoir beaucoup de données parce qu'on ne sait pas aujourd'hui être très sobre dans ces données-là. Encore une fois, avec beaucoup de précautions, un enfant est capable de reconnaître un chat d'un chien à partir de quelques exemples. Pour nos machines, qui sont encore un peu rudimentaires, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et alors le troisième, c'est des progrès algorithmiques, c'est-à-dire d'avoir des développements de nouveaux algorithmes, de nouveaux logiciels qui nous permettent de résoudre ces problèmes, d'utiliser toute cette puissance de calcul. Donc, un des grands exemples là-dedans, c'est les transformers de Google. C'est une technologie qui a été mise au point, qui s'est trouvée avoir des résultats considérables. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, pour y arriver, pour que ces techniques d'apprentissage automatique arrivent vraiment à résoudre les problèmes qu'on avait, il fallait les trois. Il fallait des machines plus puissantes, plus de données et de meilleurs algorithmes.
Ces trois facteurs qui maintenant se sont alignés, on va dire.
Alignement de planète.
Et là, depuis 2020 notamment, c'est arrivé aux oreilles du grand public et tout le monde peut désormais jouer, on va dire, avec ces intelligences artificielles qui font de l'apprentissage automatique. On pense en premier lieu, par exemple, à ChatGPT. Il y en a plein d'autres. Il y a Midjourney qui crée des images. Il y a maintenant de la traduction automatique, effectivement, qui arrive. Et vous l'avez dit, c'est extrêmement difficile. Nous, ça nous paraît presque trop simple, presque un peu magique. Et c'est d'ailleurs le titre de votre conférence. Mais si on essaie de décomposer un petit peu l'apprentissage en lui-même, vous l'avez dit, il faut beaucoup de données. Beaucoup, ça veut dire combien de temps, quel type de données? Qu'est-ce qu'on donne à manger à ces algorithmes?
Alors ça va dépendre vraiment des problèmes que vous posez, des questions que vous posez, mais vous avez parlé de ChatGPT, donc de ces IA génératives de texte. Prenons le cas particulier du texte, même si des fois le même logiciel peut servir pour beaucoup de choses. Mais prenons juste l'exemple du texte. Pour arriver à entraîner le réseau neuronal, d'abord il faut des réseaux neuronaux énormes avec des milliards de paramètres, donc maintenant il n'y a que les plus riches qui arrivent à se payer ça. Donc il faut du hardware assez volumique. Et ensuite, pour les données, essentiellement, on va lui donner tout ce dont on dispose, dont on ne disposait pas il y a 40 ans. Donc la première chose, c'est toutes les données du web. Et ça, c'est considérable. Tout ce que vous avez que vous pouvez trouver qui a un peu de sens sur le web comme texte. Alors, prenons si vous faites du français, mais en général, c'est multilangue. Mais tout ce que vous allez trouver, c'est des milliards de documents et des milliards de documents. Ça, vous allez le donner à manger. Problème de ces données, c'est que leur qualité n'est pas terrible. C'est-à-dire que si vous prenez au hasard un document du web, ça va pas être super. Mais on dispose heureusement de données bien, bien, bien meilleures. Wikipédia. Donc, Wikipédia, là, on est la taille du dessous comme données, mais la taille du dessus en qualité. Et donc, typiquement, on va lui faire avaler plusieurs fois Wikipédia, parce que pour lui dire, attention, ça, c'est vraiment important. Ou on va lui mettre des poids dessus pour dire, non, là, il y a de la vraie connaissance. Autre chose sur les choses qu'on leur fait avaler, par exemple, c'est tous les logiciels qui ont été codés jusqu'à maintenant. Donc, il y a une entreprise qui s'appelle Software Heritage, qui est d'une certaine façon, essaie de collectionner tous les logiciels open source dont on peut disposer. Et là, c'est quelque chose qui est de très bonne qualité. Donc, par exemple, qui va servir énormément pour qu'on donne à ces IA génératives la possibilité de nous résoudre des problèmes en code, de nous proposer des logiciels eux-mêmes. Donc là, vous voyez, il y a deux choses. Il y a la quantité et il y a aussi la qualité qui compte. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est un petit peu les limites. J'insiste un peu sur les limites de nos connaissances aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on y va quand même un peu bourrin. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'être très très intelligent parce qu'on dispose de beaucoup de données, qu'on dispose de plein de puissances de calcul. On se dit, allez, vas-y, avale tant que tu peux et puis calcule tant que tu peux. Il y a de fortes chances pour qu'on puisse arriver à des des trucs aussi bien, voire mieux, avec moins de données et un peu plus de réflexion. Donc là, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui essaient de trouver comment développer des IA génératives avec moins de données et moins de puissance de calcul. Et d'une certaine façon, c'est aussi quelque chose qui devient indispensable à cause de la nécessité de sobriété numérique. Parce que ces IA, elles bouffent de l'électricité, elles bouffent du carbone, elles bouffent des matières premières, elles bouffent de tout, quoi.
On va en parler en deuxième partie, parce que c'est une vraie question, notamment éthique. Là, vous avez donné un exemple sur ChatGPT. Moi, j'ai appris en écoutant votre conférence que ChatGPT, c'était en fait deux choses différentes. C'était Chat et c'était GPT. Est-ce que vous pouvez expliquer ça?
Alors là, ça nous amènerait un peu loin. Je vais peut-être pas entrer trop dans les détails, mais peut-être un peu grossièrement. D'abord, ce sur lequel j'ai voulu insister dans ma conférence, c'est que il y a une tendance naturelle quand on fait de la vulgarisation à sursimplifier. À vous dire, moi j'ai entendu des gens préciser, c'est quand même très simple cette technologie, c'est juste, vous avez une séquence de mots, on va vous calculer quel est le mot qui statistiquement est le plus probable juste après. Ouais, ce serait quand même un peu simple si c'était ça, c'est plus compliqué que ça. Donc il y a des tas de choses qui entrent en jeu, en particulier c'est pas tellement sur des mots, mais c'est des mots dans une certaine sémantique, c'est-à-dire dans le contexte, ça tient compte du contexte pour savoir. Donc les mots sont représentés en fait par des vecteurs de nombres qui en gros décrivent le mot, mais dans plein de contextes, qui décrivent le mot dans tout le corpus de linguistique qu'on a, donc c'est quelque chose de considérable. Il y a un autre aspect qui est important, qui est dans le chat, c'est cette machine-là, ChatGPT, comme d'autres qui sont disponibles aujourd'hui, d'une certaine façon va discuter avec vous. Et donc dans cette discussion, il y a aussi le côté d'éviter qu'elle apprenne de vous des choses qui sont un peu pourries. Donc on a vu un exemple d'une IA qui locuteurs leur ont appris des choses racistes,
sexistes, etc.
Donc on va contrôler un peu ce qui se passe. Et puis on va aussi contrôler comment elle vous répond. Et donc là, d'une certaine façon, c'est par un deuxième entraînement, c'est-à-dire qu'on va entraîner une IA dans ce dialogue avec vous, des choses qu'elle peut répondre, des choses qu'il faut pas qu'elle réponde. Donc essayez de. Alors du coup, vous voyez, si vous avez joué avec ChatGPT, vous apercevez qu'elle est quand même très politiquement correcte. D'accord,
c'est-à-dire que elle évite les conflits, elle voilà, fait attention.
Exactement.
On va pas pouvoir lui faire dire des choses.
C'est premier cours de fac de psychologie, peut-être, j'en sais rien. C'est quand même assez, c'est même un peu risible par moment. Mais d'une certaine façon, c'est une barrière qu'on essaie de mettre autour pour éviter de partir dans tous les sens.
Ça veut dire que ChatGPT, quand elle a été entraînée, cette IA, il y avait un humain qui lui disait ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'était un entraînement supervisé, on va dire.
Exactement. Plein d'humains qui sont là et qui, d'une certaine façon, essaient de guider ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas qu'elles disent, quoi.
Et par opposition, il y a d'autres IA qui sont entraînées un peu comme les enfants. Quand elles font un truc bien, on leur dit c'est bien, bravo. Et quand elles font un truc pas bien, on leur dit c'est moins bien. Donc plus par renforcement. C'est une deuxième technique, c'est ça?
Absolument. Et là, peut-être que pour voir un autre exemple, ça va nous sortir un peu, heureusement, des IA génératives. Alors, regardons le jeu de Go. Donc le jeu de Go, vous avez tous entendu la victoire d'un champion d'une machine de DeepMind contre le champion du monde de Go. Mais faut regarder un peu ce qui s'est passé en deux temps. Il y a une première victoire. En fait, la machine avait été, enfin le logiciel avait été entraîné avec tous les jeux de Go, tous les exemples
les parties,
de parties de grands maîtres. Donc en gros, on lui disait voilà, là il y a des millions de parties de grands maîtres, faut faire comme ça, et si tu fais comme ça, tu vas gagner. Bon, après, ce qu'on oublie aussi, c'est que la machine fait aussi énormément de tentatives pour évaluer des possibilités, regarder ce qui se passait, qu'est-ce qui se passerait si je jouais ça et si je jouais ça. Donc des branches, il y a tout un tas de calculs, hein, c'est une grosse
probabilité.
Voilà. Donc ça est arrivé à jouer très bien. Quelques temps après, une autre version de la machine a fonctionné de façon différente. C'est-à-dire qu'on lui a dit non, c'est pas la peine de regarder tout ce que font les grands maîtres. Amuse-toi contre toi-même, joue des tas de parties. Et donc, elle jouait des tas de parties en essayant des tas de trucs, etc. Et puis, quand elle gagnait, Je disais, ça c'est bien, t'as gagné. Par contre, l'autre partie qui avait perdu, ça, là, c'est, et donc elle essayait de voir, peut-être que c'est ce coup-là qui m'a fait perdre. Et donc, il y avait toute un parti de mémorisation de parties, mais cette fois, c'était pas des parties qui avaient été jouées par des grands maîtres, mais c'est des parties qui avaient été jouées par la machine elle-même contre elle-même. Des milliards
zéro,
et des milliards
fait.
De parties. C'est pour ça que la machine s'appelait DeepMind Zero, je crois. Impressionnant, cette machine-là a battu un grand maître. Donc ça, c'est une machine qui n'a pas été entraînée à partir de parties humaines, mais qui a été entraînée en jouant contre elle-même. Et pour la petite histoire, moi je trouve que c'est quelque chose sur lequel on devrait beaucoup, beaucoup réfléchir. Je regardais la partie se jouer, et à un moment donné, la machine fait un mouvement contre le grand maître, et le commentateur, qui était un grand maître, dit « Ah non, voilà ». Là, ça prouve, en gros, ça prouve la supériorité du maître humain. La machine vient de faire une bêtise. Et deux ou trois coups après, le mec a dit « Ah non, ah ben non, ah non, c'est pas possible, c'était pas une bêtise ». Donc la machine a fait un mouvement que aucun grand maître n'avait osé jouer parce que ça paraissait tellement faux que c'était écarté. La machine l'a joué et a gagné sur ce mot. Donc pour les grands maîtres, la machine a inventé un nouveau coup. Donc là, ça nous ramène à une question qu'on pose beaucoup. Est-ce que ces machines peuvent être créatrices? Est-ce qu'elles peuvent inventer? Là, la machine avait inventé un nouveau coup. Et il y a beaucoup d'autres exemples où la machine, avec beaucoup de calculs, beaucoup de tentatives, beaucoup d'essais, qui marche pas, finit par inventer quelque chose, créer quelque chose de nouveau. Et d'une certaine façon, quand on regarde la recherche scientifique, qu'est-ce que c'est la recherche scientifique? C'est essayer des nouvelles choses, c'est se planter des fois et c'est de temps en temps réussir.
Je crois qu'il existe une vidéo sur internet de cette fameuse partie de Go, et il y a quelqu'un qui est chargé de reproduire les coups de la machine, ce que joue la machine sur un grand tableau. Et quand la machine joue ce fameux coup qui sort de nulle part et qui correspond à rien, on voit l'humain qui doit reproduire, hésiter, se dire mince, je me suis trompé, c'est pas possible. Et en fait, remettre, dire ah bah non, c'est bien ce qu'elle a joué. Donc il y a une vraie hésitation, personne ne comprend. Si vous avez l'occasion, chers auditeurs, auditrices, allez regarder sur internet cette vidéo, c'est assez fou de revivre ce moment puisqu'il existe et il est enregistré.
Et si je peux me permettre, Sophie, et quand vous regardez ce coup, vous vous dites, ce qu'on me raconte sur le fait que les machines ne peuvent rien inventer, rien créer, est-ce que j'y crois vraiment? Parce que là, la machine, elle invente un nouveau coup.
Donc c'est possible d'être une machine créative, a priori, peut-être.
Du coup, ça repose la question, qu'est-ce que c'est la création?
On se demande déjà ce que c'est que l'intelligence en plus dans ce genre de discussion, donc là ça rajoute encore une couche. Mais là on voit que les IA peuvent apprendre avec l'aide de l'humain ou en partant de zéro d'elle-même. On a parlé déjà un petit peu des données, de tout ce dont elle doit ce dont on doit la nourrir, ce qu'elle doit absorber. J'ai lu en termes de quantité de données que d'ici au moins 5 ans, la totalité des productions humaines sur internet auront été absorbées par l'IA. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fake, ce genre d'information?
J'en sais rien, je pense que c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir si les informations de qualité, parce qu'encore une fois, des informations bidons, il y en a des tonnes sur Internet. Si vous prenez prenons le web, si vous prenez une page au hasard sur le web, la probabilité de tomber sur quelque chose d'intéressant est quasi nulle. C'est-à-dire que si vous prenez un URL, une adresse que vous avez découverte sur le web, si vous cliquez dessus, il y a de chances pour qu'il n'y ait rien derrière, ou que ce soit blanc derrière, ou que ce soit du trash. La probabilité de tomber sur quelque chose qui ait du sens, elle est très faible. Donc ce qui est important, la première chose qui est importante, c'est qu'elles aient appris des données qui ont un véritable sens, un véritable sémantique. La deuxième question que ça pose, c'est que ces machines, ces IA génératives produisent aussi du texte. Et que donc, d'une certaine façon, le web va être rempli de données qui sont produites par des machines.
Elles vont auto-manger ce qu'elles ont produit.
Elles vont manger ce qu'elles ont produit. Donc là, on tombe sur un problème, c'est qu'on ne sait pas du tout où ça va. C'est-à-dire, on ne sait pas si ça diverge, ça converge. Peut-être que si vous êtes très optimiste, vous allez croire que ça va générer quelque chose de beaucoup plus intelligent que ce que c'est aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt peur que ça génère beaucoup de bruit et rien d'intéressant. Donc là, ça pointe vers une autre, à mon avis, quelque chose qu'on devrait réguler assez vite. C'est l'obligation de, quand on publie des données, de publier leur origine, et en particulier de publier si l'origine est humaine ou si l'origine est d'une IA générative. Ça me paraît quelque chose qu'il faudrait faire maintenant. Et puis aussi pour pouvoir être un peu mieux vérifier la qualité des informations qu'on reçoit.
Pour éviter d'aller dans une boucle où l'IA mange ce qu'elle a déjà produit elle-même, voilà. Une boucle sans fin. Ça pose aussi une question éthique, et on parle de ce sujet juste après une pause musicale. C'était Drum Vest Tide de Saline. Et nous sommes de retour dans cette émission du Labo des Savoirs sur le fonctionnement des IA avec notre invité Serge Abitboul, informaticien et directeur de recherche à l'INRIA. Mais avant d'aborder ensemble les questions éthiques et environnementales liées à l'intelligence artificielle, nous allons nous pencher sur l'humain. Fabien, tu as choisi de nous parler aujourd'hui de l'IA et des agents conversationnels sous un angle bien particulier, pardon, celui de la thérapie.
C'est tout à fait ça, Sophie. La question est aussi simple qu'elle est brutale. L'IA pourrait-elle un jour, sinon maintenant, conduire des thérapies en jouant le rôle de psychologue ? Alors, je parle ici bien entendu des agents conversationnels qui utilisent l'IA, et plus spécifiquement des modèles LLM.
Mais alors Fabien, est-ce que ce n'est pas un peu absurde pour une bonne thérapie ? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement un peu d'humanité ?
Tu as parfaitement raison. Mais c'est justement de la capacité de l'IA à simuler certaines qualités humaines dont nous allons parler. Mais avant cela, il nous faut d'abord parler de l'efficacité des thérapies de manière un peu plus générale. De prime abord, il semble intuitif de penser qu'il existe un principe de spécificité selon lequel une thérapie particulière est efficace pour régler un problème particulier. À chaque mal, son remède, et à chaque problème psychologique, sa thérapie. Le chercheur Bruce Wampold appelle cette hypothèse le modèle médical.
Alors la grande question, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche ?
Eh bien non, pas du tout. Ce modèle médical, même s'il est très intuitif, est sévèrement mis à mal par la recherche sur les psychothérapies. En comparant l'efficacité relative de nombreux types de thérapies pour divers troubles et problèmes mentaux, de nombreuses équipes de scientifiques se sont rendues compte que ces dernières avaient toutes des niveaux d'efficacité identiques. En 1975 déjà, Luborski, Singer et Luborski avaient passé en revue les études comparant différents types de psychothérapie en concluant la chose suivante. La plupart des études montrent des différences insignifiantes en termes de proportion de patients qui connaissent une amélioration à la fin de la thérapie. Alors, il existe quelques exceptions à ce principe, par exemple l'agoraphobie ou les troubles paniques, pour lesquels les thérapies cognitives et comportementales sont souvent plus efficaces, et aussi la psychanalyse, dont l'efficacité est rarement mesurée dans ces études.
Ça semble un petit peu étrange, c'est comme si plusieurs médicaments qui n'ont rien à voir pouvaient guérir la même maladie. Comment c'est possible, Fabien ?
Oui, et c'est tellement étrange, comme tu le dis, que pour expliquer cette efficacité très similaire entre différentes thérapies, les chercheurs ont dû mettre au point un nouveau concept, celui de facteur commun. Il s'agit tout simplement des facteurs d'efficacité que toutes les thérapies ont en commun. Un article de Norcross et Lambert en 2019 propose une estimation de l'impact des différents facteurs d'amélioration en thérapie pour nous aider à concevoir cela. Commençons par l'effet d'attente et l'effet placebo, avec un impact de 15%. Ensuite, la technique, donc la thérapie particulière utilisée, avec un même impact de l'ordre de 15%. Viennent ensuite nos fameux facteurs communs à toutes les thérapies, avec un impact de 30%. Et enfin, les changements extrathérapeutiques, 40% soit le plus fort impact. Oui, Vous avez bien entendu, ce qu'il faut en retenir, c'est que l'efficacité thérapeutique des techniques et des thérapies particulières est très basse, si basse qu'elle se situe au niveau de l'effet placebo, à 15%, tandis que celle des facteurs communs est deux fois plus importante et se situe aux alentours de 30%.
Donc il existe plusieurs facteurs communs à toutes les thérapies, qui sont donc plutôt efficaces, mais en quoi ça consiste exactement ces facteurs communs? À quoi ça ressemble et surtout c'est quoi le rapport avec l'IA?
Pour faire simple, les facteurs communs sont typiquement divisés en trois catégories. Nous avons, selon le chercheur Bruce Wampold, tout d'abord ce qu'on appelle la relation authentique, avec les patients et patientes bien entendu, puis le mythe, les attentes, les croyances des patients et des patientes dans l'efficacité du traitement, et enfin le rituel, ce que le ou la psychologue propose aux patients et patientes de faire. Revenons-en maintenant à nos IA. Sont-elles capables de créer notre premier facteur commun, c'est-à-dire la relation authentique? Est-il vraiment possible d'entretenir une relation authentique avec une IA conversationnelle comme ChatGPT?
Moi, personnellement, quand j'échange avec ChatGPT, parce que ça m'arrive, je me sens plutôt à l'aise. Donc ça m'a l'air authentique, ça devrait être bon, non?
Eh bien, ce n'est pas aussi simple. En thérapie, une relation authentique possède deux aspects centraux. D'abord, l'alliance thérapeutique, qui est la confiance entre le psychologue et les patients, ainsi que les objectifs partagés. Ensuite, l'empathie, c'est-à-dire la capacité de comprendre et de partager les émotions d'autrui. Cette compréhension est souvent divisée en deux types. L'empathie cognitive, qui implique la prise de perspective ou la compréhension de l'état émotionnel de l'autre, et l'empathie affective, qui est la capacité de ressentir les émotions des autres. Laura Vowels et ses collègues ont voulu savoir s'il était possible pour l'IA de montrer de l'empathie cognitive et de former une alliance thérapeutique avec les humains. Dans une série d'études menées en 2024, ils ont testé l'efficacité de l'IA dans la thérapie de couple. Dans deux premières études, on demandait à des volontaires de juger de la qualité des réponses à des questions de couple sur plusieurs aspects, dont l'empathie. Bien sûr, les participants et participantes ne pouvaient pas savoir si c'était une IA ou un expert qui répondait. De manière intrigante, les réponses de l'IA ont été jugées par les volontaires comme plus empathiques et plus utiles que celles rédigées par des experts. Mais, parce qu'il y a un twist, seulement tant qu'ils ignoraient qu'elles avaient été générées par une IA. Dans une autre étude de 2024, encore une fois, Vowels et ses collègues ont pu montrer la capacité des agents conversationnels à obtenir de bons scores en termes d'alliance thérapeutique, 4,75 en moyenne sur une échelle allant de 1 à 6, dans le cadre de discussions de 15 à 30 minutes avec les participants et participantes au sujet d'une difficulté rencontrée dans leur couple.
Alors si je résume, dans la thérapie de couple, les IA conversationnelles sont jugées empathiques, plutôt douées sur la confiance et qui ont une alliance thérapeutique avec des patients. C'est pas mal. Est-ce que l'IA s'en sort aussi bien avec les problèmes mentaux?
Tout à fait Sophie. Ces résultats ne se limitent pas à la thérapie de couple. D'autres chercheurs, Beatty et collègues, ont pu montrer dans une étude de 2022 que les discussions avec un agent IA dans le cadre de troubles anxieux et dépressifs donnaient aussi de bons résultats en termes d'alliance thérapeutique, avec des scores de liens ressentis qui augmentent au fur et à mesure des interactions sur 5 jours, pour finir à 4,05 sur une échelle de 1 à 5. C'est donc assez incroyable, mais toutes ces études suggèrent que l'IA est à même de reproduire des facteurs communs dont on parlait tout à l'heure, ceux qui font qu'une thérapie est efficace et que l'on a tendance à penser comme étant proprement humain.
Est-ce que ça veut dire que les IA vont bientôt mettre les psychologues au chômage?
On en est encore loin, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour l'instant, l'efficacité immédiate reste faible ou moyenne, loin de celle d'une thérapie menée par un ou une psychologue sur le long terme. C'est la conclusion de l'importante méta-analyse de 2023 de Hay et collègues, qui porte sur un ensemble de troubles, dépression, anxiété ou stress. Ensuite, cette efficacité, elle a tendance à se dissiper quelques semaines après les interventions. Et enfin, un dernier problème qui se pose, c'est celui de l'acceptabilité des thérapies par IA. Une étude de Vowels et ses collègues de 2024, encore une fois, a montré que la plupart des utilisateurs et utilisatrices ont plutôt une attitude négative envers l'IA comme psychologue. Une attitude qui s'améliore néanmoins au fil des interactions, mais qui redevient négative dès que les interactions cessent.
Après, nous on parle toujours des progrès fulgurants de l'IA, donc on peut penser qu'elle s'améliore, non?
Une amélioration est très probable, notamment dans deux domaines identifiés par la méta-analyse de Hay et collègues. La personnalisation et l'empathie. Il s'agit des deux facteurs les plus associés avec l'efficacité des interventions et sur lesquels il y a encore des marges d'amélioration importantes. Ce qui est sûr, c'est que certains chercheurs et chercheuses comme Vowels et collègues sont déjà en train de perfectionner leurs IA conversationnelles, qui a même un nom, Amanda.
Merci beaucoup Fabien pour cette revue de la littérature scientifique sur cette idée d'avoir des IA conversationnelles comme thérapeutes. Les sources que tu as utilisées sont bien sûr à retrouver sur le labodessavoir.fr. En attendant, retour à l'interview.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
On est de retour en interview avec Serge Habitboul. Nous avons parlé juste avant la pause d'apprentissage de l'IA grâce à une énorme quantité de données pompées sur Internet. Le problème, c'est que tout ça vient de ce qu'on appelle les communs, d'articles de journaux, de livres, d'œuvres d'art, d'illustrations, etc. Ça pose la question, bien sûr, des droits d'auteur. Là, on pointe les IA comme des fautives, mais on rappelle quand même que les IA, elles viennent d'entreprises, notamment, par exemple, l'exemple de OpenAI, qui n'est pas très open d'ailleurs. Ces entreprises, est-ce qu'elles pourraient faire autrement que de pomper tout ce travail qui a été fait par des centaines et des milliers d'humains avant elles, ou est-ce que c'est le seul moyen d'entraîner les IA?
C'est une excellente question. Alors, peut-être un pas de côté, les humains, comment ils fonctionnent? Comment vous fonctionnez? Comment les écrivains fonctionnent, etc. Ils lisent. Enfin, moi, depuis que je suis passé par l'école primaire, le collège, on m'a demandé de lire des bouquins, d'apprendre des classiques, et puis ensuite des modernes, et puis après, je continue à lire des livres, etc. Donc, mon esprit s'est enrichi de tout ce que j'ai lu depuis que je suis tout petit. Et c'est comme ça que maintenant, quand j'écris un texte, ce texte est évidemment inspiré de tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Donc, d'une certaine façon, si on voulait être un peu généreux avec ces machines, elles ne font que ce que je fais moi, c'est-à-dire qu'elles s'inspirent de tout ce qu'elles ont lu jusqu'à maintenant. Sauf qu'elles ont tout mémorisé, c'est peut-être un petit peu différent, elles peuvent même, d'une certaine façon, plagier, sans s'en rendre compte forcément. Mais à la limite, on pourrait les corriger pour les empêcher de plagier au sens strict du terme, c'est-à-dire copier mot à mot quelque chose qu'on s'en trouve ailleurs. Maintenant, revenons sur votre question. Oui, ces IA ne rétribuent pas correctement tous les documents et les textes privés qu'elles ont lus. Et donc là, c'est une vraie problématique qui se résout en ce moment à un coup de procès. Hein, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, ces IA-là, par exemple, elles pillent les journaux, Le Monde, le New York Times, Libération, peuvent faire des procès, leur dire, non, vous n'avez pas le droit, si vous prenez des informations chez moi, il faut que vous les payiez. Pareil pour toute la littérature qui est couverte par le droit d'auteur. Donc ça, d'une certaine façon, ça peut se régler parce que d'une certaine façon, c'est protégé par le droit d'auteur. Avec quand même une petite inquiétude, c'est que ces entreprises sont tellement puissantes et tellement massives que les petits, d'une certaine façon, journaux comme Le Monde ou Libération sont quand même assez petits pour négocier avec des mastodontes comme Google, Facebook ou
Microsoft.
Google. Mais bon, il y a quand même, de leur côté, ils ont la loi qui est le copyright, le droit d'auteur. Vous avez mentionné les communs, et là on est dans un tout autre domaine, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui participent aux communs numériques en publiant de l'information, en publiant des textes. Nous, on publie avec des copains un journal qui s'appelle Binaire, qui est en Creative Commons. Il y a tous les gens qui écrivent, par exemple, de la fanfiction. Donc tout ça, c'est de l'information. Wikipédia, Wikipédia qui est une des sources principales des IA génératives, comme j'ai dit
tout à l'heure.
Oui. Donc tous ces communs numériques, d'une certaine façon, se sont développés parce qu'il y a des humains derrière qui donnent de leurs neurones pour les créer. Et maintenant, les IA génératives, ces grandes entreprises arrivent et pillent tout ça. Et je pense que là, il y a un vrai problème qui est qu'elles ne retournent pas l'ascenseur. C'est-à-dire qu'elles ne rétribuent pas les communs. Alors, on pourrait imaginer que les communs soient rétribués sous forme de monnaie. Pourquoi pas, d'une certaine façon, le moteur de recherche Google utilise énormément Wikipédia dans ses recherches et lui donne des cacahuètes. Il faudrait peut-être, dans ces cas-là, s'il devait vraiment rétribuer la vraie valeur, ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais peut-être qu'il faut surtout arriver à une législation, parce que là, il faut une régulation, il faut arriver à protéger ces communs numériques pour faire que les grandes entreprises qui font des IA génératives ne les pillent pas sans retourner l'ascenseur, quoi. Et encore une fois, je sais pas, je pense que là, on est encore dans une phase un peu western, on sait pas très bien où on va.
C'est le début.
C'est le début. Donc, et c'est bien, c'est toujours bien que dans un premier temps, on laisse parler la créativité, on laisse parler l'innovation. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra s'asseoir et dire, attendez, là, maintenant, si on veut que les communs numériques continuent à exister, si on veut continuer à avoir des Wikipédias, si on veut continuer à avoir de la fanfiction, si on veut continuer à avoir des petits journaux comme Binaire qui existent, il faut que ça se passe autrement.
Est-ce que dans ce retournement d'ascenseur, on pourrait imaginer, ou je ne sais pas, est-ce que ça existe déjà, des IA qui sont en open source, en accès libre, que tout le monde peut un peu bidouiller et s'approprier ?
Alors, oui, bien sûr. D'une certaine façon, c'est encore une jungle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce que ça veut dire en open source. Et d'ailleurs, les gens jouent un peu là-dessus, parce que tout le monde déclare plus ou moins faire de l'open source. Alors, la première chose, c'est que votre logiciel soit ouvert. La plupart des temps, enfin très souvent, les logiciels des IA génératifs sont des logiciels en open source. Donc les logiciels sont déjà ouverts. La deuxième chose que vous pouvez dire, c'est sur quoi je l'entraîne, cette IA, d'accord ? Quels sont les textes que je lui donne à manger ? Alors là, il y a beaucoup, beaucoup moins d'ouverture. D'abord, parce que c'est un peu le secret de Polichinelle, les grandes entreprises pillent sans dire quoi, et puis surtout, très, très souvent, détournent le droit et entraînent leurs IA sur des données sur lesquelles ils n'ont pas véritablement l'ordre de le faire, mais bon, comme c'est pas facile à vérifier, et puis quand même, en plus, on est un peu dans la période western, tout le monde ferme les yeux, mais ça devra changer. Alors la troisième possibilité, c'est qu'est-ce que vous faites dans les IA génératives ? Vous entraînez un réseau de neurones, vous obtenez un modèle. D'une certaine façon, vous pouvez y voir ça comme un modèle de la langue. Et donc ce modèle-là, vous pourriez le rendre, et certains le font d'ailleurs, ce modèle-là, vous pourriez le rendre en accès ouvert, ce qui permettra aux gens, par exemple, de prendre votre modèle et puis de continuer l'entraînement sur leurs données à eux, sur des données plus spécifiques, parce que vous pouvez avoir des données, soit des données qui sont propriétaires, soit des données dans un domaine particulier. Je ne sais pas, vous êtes dans le domaine judiciaire et vous voulez entraîner votre IA générative, vous allez prendre ce modèle et l'entraîner sur vos propres données.
J'imagine que ça implique quand même d'avoir quelques, en termes de matériel, concrètement, l'IA, c'est pas juste du cloud, c'est pas juste des bouts de code qui se baladent. J'imagine qu'il faut quand même des machines avec une certaine puissance de calcul, qu'il faut avoir accès à des connaissances. Enfin, on peut pas trop s'approprier ça tout seul.
Alors, il faut énormément de puissance pour entraîner ces grands modèles. Il faut ça s'appelle large language model, les grands modèles de langage. Il faut énormément de puissance de calcul. Et là, on parle de quelque chose qui, d'une certaine façon, maintenant devient presque en dehors des possibilités de petits états. Hein, ça demande des puissances de calcul considérables, d'être capable de mettre un nombre de processeurs gigantesque pendant plusieurs mois pour entraîner ce réseau de neurones. Alors, une fois que le modèle est entraîné, on est dans des coûts qui sont quand même moindres. C'est-à-dire, une fois qu'on a le modèle de langage, l'adapter, le réutiliser ensuite, ça demande moins de puissance de calcul.
On n'en est pas encore là. En tout cas, pour pouvoir s'approprier à des petites échelles ces IA, ça reste la propriété des grandes entreprises. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Entraîner ces IA, c'est énormément donc de données, de processeurs, donc d'énergie, et donc un bilan carbone qui est assez lourd. L'impact carbone de Microsoft aurait augmenté de 30% en 2023 avec l'arrivée et la construction notamment de nouveaux data centers, justement pour le futur de ces IA. Vous êtes informaticien, c'est votre domaine d'expertise. Alors, pas l'impact carbone, mais les algorithmes. Est-ce que vous y pensez quand vous travaillez à tout ça ?
Alors, je suis informaticien, mais j'ai passé un certain nombre d'années à l'ARCEP, l'Autorité de Régulation des Télécoms, et on a travaillé énormément sur l'empreinte du numérique, l'empreinte carbone du numérique, et puis tous les aspects environnementaux. Donc, c'est un sujet qui, moi, me passionne, sur lequel j'ai travaillé. Alors, l'exemple de Microsoft est vraiment un très bon exemple, parce que Microsoft avait un projet de décarbonisation de son énergie. Donc, c'était vraiment un projet qui pouvait faire un peu rêver. Voilà,
très louable.
Très louable. On va décarboner de temps la première année, puis de temps. Et puis là-dessus, Microsoft dit, attention, est-ce qu'on s'excuse, mais maintenant, il y a les IA génératives, ça consomme tellement que non seulement pendant les années qui viennent, on va pas décarboner, mais au contraire, on va avoir une augmentation d'empreinte carbone qui va, d'une certaine façon, augmenter de façon considérable. Je pense que c'est pas quelque chose qui est intimement lié à cette technologie. Je pense que cette technologie pourrait être beaucoup, beaucoup moins gaspilleuse d'énergie. Mais dans les connaissances actuelles, dans la lutte actuelle qui est, on a l'impression que pour y arriver, il faut faire plus gros avec plus de données, pas du tout réfléchir, ce qui à mon avis est pas, et je suis pas le seul à penser que c'est pas forcément la bonne solution. Où il faudrait que tout le monde se mette à entraîner, je sais pas, de plus en plus de boîtes, chacun veut entraîner son propre réseau de neurones, à faire son propre large language model, et puis on y va et on y va, et puis il y a une course effrénée au gigantisme. Là, on est devant un vrai souci d'explosion de consommation énergétique, et avec tout ce qui va avec, et on parle du carbone, mais il faudrait aussi la fabrication de ces data centers, l'eau qu'ils utilisent, enfin, plein de dimensions. Mais ça, si vous voulez, d'une certaine façon, il y a un moment donné, il faudra se poser la question de est-ce qu'on peut continuer comme ça. En même temps que je dis ça, je suis un peu inquiet parce que ça fait des dizaines d'années que j'entends poser la question est-ce qu'on peut continuer le transport aérien et les voyages partout sur la planète alors qu'on sait que c'est pas bon pour l'environnement. Et ça fait des années qu'on dit ah bah oui, c'est pas bon, mais on le fait quand même. Donc j'ai peur que comme la solution qui passerait par une solution internationale, on n'y arrive pas plus qu'on arrive à réguler le transport aérien. Mais voilà.
Il faudrait.
Il faudrait. Vous avez raison, il faudrait. Il faudrait.
Il y a cette notion de Far West dont on parlait juste avant, c'est un peu le début, c'est l'explosion, il y a une course un petit peu au gigantisme à faire son propre modèle de langage et moi je vais avoir plus de données que toi. Est-ce que on peut imaginer une IA frugale où dans l'avenir on entraîne avec des données précises, avec un objectif précis et où c'est un peu plus raisonné dans un monde idéal?
Oui, je pense aussi que, tout à fait, je pense qu'on peut imaginer des approches beaucoup, beaucoup plus frugales. On peut aussi imaginer qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir 100 000 personnes qui en même temps entraînent des IA pour faire un large language model. C'est d'une certaine façon, ça peut se partager. Ces expériences peuvent se partager. On a besoin d'apprendre à parler anglais, on a besoin d'apprendre le français. Alors, pas forcément, on va pas se dire il n'y en aura qu'un seul parce que d'une certaine façon, il faut une certaine variété. Mais il n'y a pas besoin, il n'y en a peut-être pas besoin d'autant. Et puis peut-être qu'on peut aussi s'arrêter de faire avec de plus en plus de machines, avec de plus en plus de données, et puis essayer de réfléchir un peu à ce qu'on veut faire, quoi.
Se poser pour réfléchir, c'est une très bonne idée. Nous avons parlé du fonctionnement des IA, leur impact sociétal, aussi bien du point de vue éthique qu'environnemental. Parlons maintenant des promesses, de la suite, de l'avenir, parce que forcément là on est déjà un peu dans le futur en fait quand on parle de tout ça. La question centrale, Serge Habitboul, pour vous, est-ce qu'une IA, il y a quelque chose qu'une IA ne fera jamais?
Alors, on était jusque-là, jusqu'à maintenant, j'ai essayé de rester dans le domaine scientifique. D'accord? Là, vous me demandez de sortir du domaine scientifique.
C'est ma faute, ma très grande faute.
D'accord, donc je l'assume. Donc, je vais vous donner un avis qui est un avis complètement personnel. D'accord?
Parce que c'est un sujet à débat dans la communauté
voilà,
scientifique.
Voilà, et vous trouverez des scientifiques qui pensent exactement le contraire. Hein, d'accord? Donc, mon avis personnel, c'est que je ne vois, à titre personnel, aucune tâche cognitive qu'un humain saurait faire et que un jour, je suis pas futurologue, mais un jour.
Peut-être, on ne sait pas quand.
Non, pas peut-être, un jour, certainement.
Ah, certainement un jour.
Et j'irai même aller. Je vais même me mouiller complètement puisque de toute façon, j'ai rien à miser. Dans un temps très, relativement proche, une IA ne saurait pas faire. Alors, c'est pas scientifique du tout. C'est une croyance un peu. Mais je peux essayer de l'expliquer. Je suis plus vieux que vous et j'ai vu depuis longtemps des gens affirmer doctement que jamais, mais non, jamais au grand jamais, une IA sera capable de faire ça. Donc j'ai entendu, jamais elle sera capable de jouer aux échecs, et bah le champion du monde. De jouer au go, et bah le champion du monde. De calculer, je sais plus quel problème. Elle résout des problèmes mathématiques de façon régulière et des problèmes mathématiques que très peu de gens arrivent à résoudre. Qu'elle ne saura jamais parler en anglais ou en français. Aujourd'hui, elles sont capables de parler en anglais et en français. Donc, qu'elles ne seraient jamais créatives. Elles sont créatives. Alors, il y a des domaines qui résistent un peu, qu'elles n'auront pas d'humour. Il commence à y avoir des IA qui essaient d'avoir de l'humour. C'est pas terrible, mais c'est un début. Elles écrivent de la poésie. C'est pas terrible, mais c'est un début. Quand on parle de capacité cognitive, je vois pas lesquelles. Après, si on me dit il y a aucune IA qui sera un jour capable d'amour, j'en sais rien. De toute façon, je sais pas très bien définir ce que ça veut dire, mais je veux bien croire ça. C'est pas une capacité cognitive, d'accord, que jamais une IA pourra ressentir de l'empathie pour quelqu'un. Non, on sait faire des IA qui simulent l'empathie. complètement. On sait faire des IA qui comprennent votre empathie, qui comprennent votre état psychologique à un instant donné. Donc on sait faire tout ça. Et encore une fois, pour revenir à votre question, j'ai du mal à fixer une limite à ce que sauraient faire les IA.
Aujourd'hui, il y a plein de limites qui existent déjà, donc peut-être qu'un jour, on va les dépasser. Par exemple, on parle d'hallucination de l'IA. Moi, je trouve que c'est un très beau terme. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ?
Alors, c'est un très beau terme qui, pour éviter de dire que l'IA dit une bêtise. Enfin, on pourrait dire bêtise. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et là, on parle des IA génératives et pas des IA en général. Hein. Donc, ces IA génératives, à un moment donné, elles disent n'importe quoi. Alors, moi, chacun son exemple. Hein. Moi, celle que je préfère, c'est pour faire une omelette avec des œufs de vache, il faut moins d'œufs qu'avec des œufs de poule parce qu'ils sont plus gros.
Bon, logique.
D'accord. C'est logique. C'est complètement logique. Mais uniquement la raison de ces erreurs, de ces bêtises, si vous voulez, qu'on appelle des hallucinations, c'est le fait qu'elles ne raisonnent pas. Et elles ne sont pas, elles sont juste là, les IA génératives sont là pour générer du texte, pas pour raisonner. Générer du texte qui ressemble à du texte et qui ressemble à ce que les gens disent, mais qui, à aucun moment, n'est capable de raisonner. On sait faire aussi d'autres intelligences artificielles, les IA symboliques dont on parlait tout à l'heure, qui, elles, sont capables de raisonner. Aujourd'hui, un des grands challenges sur lequel Meta, Google travaillent tous, c'est d'arriver à coupler les deux. Et on y arrive très bien. Si vous voulez prendre juste un exemple, c'est chez Google, ils ont résolu pratiquement tous les problèmes de maths des Olympiades, tous les problèmes de géométrie des Olympiades avec une IA. Et là, en combinant les deux, c'est-à-dire qu'il y avait une IA générative qui imaginait une façon de résoudre le problème, donc chaque problème, des problèmes de maths très compliqués, l'IA générative imaginait une façon de résoudre le problème, donc pouvait faire une hallucination, pouvait dire une bêtise, mais derrière, il y avait une IA qui essayait de vérifier. Donc l'IA générative disait « Ah bah, je pourrais démontrer ce problème comme ça. » Et le truc est là « Ah non, c'est bête, ça marche pas. Je pourrais démontrer comme ça. Ah non, c'est bête, ça marche pas. » Peut-être 100 fois, et à la 101e, ah oui, c'est bon, ça marche.
Ça marche.
Mais j'ai une vérification, j'ai une preuve. Donc là, il n'y a pas d'hallucination, j'ai une preuve mathématique que c'est une bonne solution.
Là, on parle d'un couple IA générative, IA symbolique. On parle aussi, dans l'arrivée d'un futur proche peut-être, d'une IA dite générale, puisque là, on a parlé par exemple de l'IA qui bat aux échecs, qui bat au go, qui fait de la traduction. À chaque fois, c'est une IA différente pour chaque tâche. Cette IA dite générale pourrait tout faire et comprendre ce qu'elle fait, c'est ça ?
Oui, alors là, je vais peut-être faire un peu de pub.
Allez-y.
On a écrit avec Laurence De Villers et Gilles Dehaec une pièce de théâtre qui s'appelle Kia Kegarutia, dans lequel un chatbot, c'était un robot qui parle, il n'y a pas de corps physique, une IA qui est capable de parler d'à peu près n'importe quel sujet, de faire du raisonnement, de vérifier, d'avoir de la mémoire, etc. Ce dont on parle dans cette pièce de théâtre, donc qui passe à Paris jusqu'à la fin de l'année. Fin de la publicité. Donc, dans Kia Kegarutia, la botte Garutia a d'une certaine façon ses intelligences générales. Mais, et alors ? Très souvent, le risque, c'est que les gens, dans l'intelligence générale, rajoutent des tas de trucs. Donc, que peut-être cette IA, elle va vouloir remplacer les humains, ou que peut-être cette IA, elle serait plus intelligente que les humains. Qu'est-ce que ça veut dire, plus intelligente que les humains ? Personne ne sait ce que ça veut dire. Moi, je ne sais pas mesurer, d'accord ? Moi, je ne crois pas trop aux intelligences artificielles qui vont vouloir prendre notre place. Je ne vois pas pourquoi elles le feraient. C'est nous qui les avons construites. Et elles sont là à notre service. Encore une fois, les logiciels qu'on écrit ne sont pas des logiciels qu'on écrit pour être des IA générales, c'est des logiciels qu'on écrit pour résoudre des problèmes. D'accord ? Donc la traduction, ça, c'est un problème dur. Aujourd'hui, on a des logiciels qui font de la traduction. Ça m'intéresse.
Vous avez déjà un peu répondu à ma dernière question, mais je la pose quand même, puisque ce matin, j'ai tapé IA sur Google et je suis allée dans l'onglet Actualité pour voir un petit peu ce qu'il y avait de nouveau. Et en fait, pendant 2 pages, il y avait des articles qui étaient sortis il y a moins de 24 heures, preuve qu'on n'arrête pas de parler de l'IA tout le temps. Et alors, il y avait des mots comme promesse, comme menace, comme remplacer nos emplois. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses très différentes. Et ça venait d'articles de médias mainstream, Les Échos, La Croix, BFM TV, Radio France, L'Opinion, La Tribune, pour ne citer ceux qui n'étaient qu'en première page. À ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant quand il n'y avait pas l'IA, ou que finalement, et vous avez déjà un peu répondu, l'IA c'est un outil et ça va être quand même super chouette les prochaines années avec ?
Vous m'avez volé ma réponse, oui, c'est complètement, pour moi c'est un outil, mais c'est un outil qui est fantastique, c'est-à-dire que c'est un outil qui d'une certaine façon nous permet de réaliser tous les rêves que les humains ont eus depuis le début de l'humanité, peut-être aussi tous les cauchemars. Donc la question c'est premièrement, c'est un outil. Gardez bien en tête que c'est un outil. Mais c'est un outil qui a tellement de puissance en lui qu'il faut se méfier de ce qu'on va en faire. Quand les gens disent « mais j'ai peur qu'on prenne mon boulot parce que ces IA le feront pour moi », ben ils ont raison. On ne devrait pas avoir peur que les IA prennent notre boulot, elles le feront. Ce qu'on devrait avoir peur, c'est que les ressources qui vont être générées restent aux propriétaires de ces IA. C'est vrai, le vrai problème est un problème économique. Comment on va partager économiquement leur travail, le revenu de leur travail? Et ça devient un problème politique, d'une certaine façon.
Et ce n'est pas la faute de l'outil, mais peut-être des politiques qu'il y a derrière.
Absolument, complètement.
Merci à Serge Abitboul, informaticien et directeur de recherche à l'INRIA, d'avoir répondu à mes questions. Merci également au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Merci également à Fabien pour sa chronique. Toutes les sources sont bien sûr à retrouver sur le site internet. Cette émission a été réalisée par Sophie Potvin. Vous pouvez l'écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodessavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et on se dit, comme d'habitude, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
FM.